Venez, venez, entrez. Le Judaïka Culture Club a ouvert ses portes, ben, comme tous les lundis, ou presque, puisque la semaine prochaine, nous n'avons pas d'émission, puisque c'est Kippour. Et donc, aujourd'hui, je dois vous souhaiter Shana Tova à tous, donc bonne année. Est-ce que vous savez en quelle année on est, Laurent
Ah non.
Alors, à peu près une fourchette. Rien.
C'est 5750.
84.
Oula, bravo, bien.
Attention, hein.
Donc,
vous avez ici des gens d'expérience. Et donc, la première personne d'expérience que je vais présenter, c'est Frédéric Dussen, puisque la dernière fois que vous étiez venu, vous en étiez à votre centième mise en scène, quelque chose comme ça.
C'est celle-ci, la centième.
C'est
celle-ci, oui.
Alors, comme on dit chez nous, Mazel Tov, c'est quand même franchement pas mal. Et vous allez venir nous parler donc de Là où le soleil se couche. Une pièce atypique dans un lieu atypique, on peut dire ça ?
On peut dire ça, oui.
Voilà. Et comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'hommes autour de moi. Alors, celui qui est à la technique, c'est toujours Henri. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci
bonsoir à tous.
D'assurer cette technique qui va peut-être être un peu périlleuse aujourd'hui, puisque nous aurons, en théorie, par Skype, l'Opéra de Liège.
Le metteur en scène de l'Opéra de Liège
qui commence à partir de demain.
On partage le micro du coup, comme les chanteurs pop, comme les choristes.
Voilà, on fait
ouf, ouf. On fait boubou bidoup ensemble, c'est ça.
Est-ce qu'on va bien ensemble?
Oui, évidemment.
Les cheveux, tout va bien. Et donc je vous présente Dominique Corbiot qui va venir donc chroniquer une fois tous les mois, deux fois par mois, donc opéra.
En fonction de l'actualité lyrique en Belgique.
Voilà, opéra, musique
classique. Ouais, absolument.
Voilà, qui va nous donner envie de sortir de chez nous.
Bon, on va essayer de faire
pour
ça,
aller
oui.
à l'opéra. Voilà, donc nous aurons par Skype dans quelques minutes.
Tout
donc,
à fait.
Le metteur en scène qui s'appelle ?
Il s'appelle Jean-Louis Grinda.
Voilà. Et vous avez peut-être reconnu donc, Laurent Capilluto qui vient nous présenter le Décameron et qui va jouer avec combien d'autres acteurs ?
Nous serons jeudi et vendredi, nous serons 6 et samedi, nous serons 7.
C'est ça, pas pour jouer la même chose, pour jouer plus de petites scénettes. Comment plus on va appeler ça ?
Des contes.
Pour plusieurs contes. Ouais. Alors, j'ai adoré. Hein. Donc, j'en ai vu 6, donc j'ai pas vu le 7e, mais c'est vraiment sympathique. Et on va en parler tout à l'heure. Mmh. Et on accueille, mais alors, tout de suite, parce qu'elle a quelques secondes de retard, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est Myriam Saduit pour Scène de la vie conjugale. Oui, oui, la même chose que le titre du film. Donc voilà, bonjour, si vous voulez bien vous mettre là. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Voilà, nous l'avons déjà eu deux fois en ligne dans l'émission, mais jamais en chair et en os, donc nous sommes vraiment très fiers de l'avoir. Et puis, donc, celui qui m'a aidé à ouvrir la porte, donc, c'est Mario Iocampo. Bonsoir.
Bonsoir.
Qui vient présenter quelque chose de très particulier, mais très important pour moi. C'est une exposition qui s'adresse, alors, moi, je pensais aux enfants, mais en fait, moitié-moitié, apparemment.
Oui.
Donc, le Bubble Planet.
La tour de taxi, oui.
Voilà. Vous savez que moi, je veux que les enfants sortent de chez eux pour assister à des spectacles vivants. Il faut que ça commence jeune. Il faut que les parents les emmènent très jeunes. Et voilà, c'est une façon de commencer à voir qu'il y a autre chose que la télé et les tablettes.
Oui.
Et ça me fait très plaisir.
Bien,
voilà.
Moi aussi.
Et en surprise, vous allez nous parler de deux expos qui se passent pour le moment en Israël aussi.
Oui, voilà. À Tel Aviv et à Oulan.
Voilà, parce qu'en fait, votre métier, moi je trouve extraordinaire, c'est d'inventer des expos et de les mettre sur pied et puis de les diffuser dans le monde entier.
Voilà, les mettre sur pied en Belgique, puis après ça, on les diffuse.
Voilà, alors Myriam et Frédéric, vous allez partager le micro. Est-ce que vous êtes d'accord de partager
Sans
le
problème.
Micro avec Myriam? Voilà, alors bonsoir Myriam.
Bonsoir.
Très heureuse de vous accueillir donc sur Radio Judaïka.
Merci, moi aussi
voilà.
Je suis ravie d'être ici.
Et donc, Shana Tova, c'est la nouvelle année pour nous. Et avant de vous demander la colle, donc je vous dis tout de suite que nous sommes en 5784. Voilà. Okay. Alors, on va commencer avec Laurent Capilluto et le Décameron. Qu'est-ce que ça ? Alors, peut-être que Frédéric sait ce que c'est le Décameron.
Je sais ce qu'est l'œuvre de départ.
Voilà. Mais qu'est-ce que ça vous dit, Décameron ? Ça vous fait penser
ça
à quoi ?
La Renaissance et l'Italie, surtout.
Ça part de la Renaissance et de l'Italie ?
Oui, on peut dire ça. Donc c'est Boccace, donc c'est une œuvre assez colossale. Donc il y a 100 contes qui sont repris ou racontés par Boccace autour d'un récit cadre. C'est 10 jeunes gens qui fuient la peste. Donc le Boccace l'a écrit au XIVe siècle et il situe l'action donc de son roman un siècle plus tôt. C'est la peste à Florence et 10 jeunes s'isolent dans une campagne, une maison à la campagne pour fuir cette peste. Là, ils vont s'organiser pour cultiver, pour manger. Et puis très vite, ils vont se rendre compte qu'il leur manque une chose essentielle pour vivre, c'est des histoires. Et donc en fait, au-delà de la question, entre guillemets, anecdotique de la peste au premier degré, ce que Boccace raconte à travers avec son œuvre, c'est que c'est une, d'un point de vue plus métaphorique, c'est une peste existentielle qu'ils vont fuir, c'est la peste qui est en nous-mêmes et qu'ils vont combattre par la création, par la fiction et par le fait de raconter des histoires et de se raconter des histoires et de tisser un lien qui va donc les amener à prendre contact avec eux-mêmes profondément. Et donc c'est un livre qui est tout à fait qui est aussi vraiment très humaniste, c'est-à-dire que c'est un livre dans lequel l'homme est vraiment au centre, la femme a une place d'honneur, la question du désir. On n'est pas du tout dans un roman moraliste et donc en fait tous ces contes là sont racontés par 10 jeunes gens qui sont une pure fiction, qui sont inventés par Boccace, mais qui sont présentés comme un fait historique et qui permettra à Boccace d'inventer des histoires, d'en reprendre de la tradition orale. Et surtout, ce qui est assez formidable et ce que nous essayons de reproduire sur le plateau mis en scène par Dominique Séron, c'est le besoin que chacun a de l'autre pour raconter l'histoire. Et donc, ils mettent en scène chaque conte. Toi, tu vas jouer ça. Toi, tu vas... Donc, ils distribuent. Les contes sont structurés d'une manière à ce que chaque fois, on commence par dire pourquoi chaque personnage de Boccace raconte. Commence par dire pourquoi il veut raconter cette histoire, en quoi c'est important pour lui. Et puis il place le contexte, il distribue les rôles, et puis le conte se raconte.
Alors, dit comme ça, ça a l'air sérieux.
Oui.
Et en fait, c'est oui, jouissif. Alors, c'est
tantôt drôle, tantôt très cruel, tantôt très surprenant. Ça traite de l'humain dans toutes ses dimensions. Mais c'est surtout le plaisir de raconter dans l'adresse au public.
C'est ça.
Et de passer, donc, lorsqu'on raconte les histoires, on passe de chaque acteur passe du narrateur au...
Et est utilisé par les autres comme personnage.
Oui,
voilà.
Et dans l'incarnation, quand le propos se veut fort, intense, et ben tout d'un coup, on peut passer dans l'incarnation. Donc il y a cette espèce de mouvement continu entre l'adresse au public du narrateur et le personnage incarné. Et c'est très, comment dire, c'est très dynamique, c'est très ludique.
Oui.
Et d'une certaine manière, c'est assez simple comme dispositif. Et ça répond à un besoin à la fois simple et à la fois profond qui nous relie, celui de partager des histoires.
Mais ce qui n'est pas simple, c'est justement pour les acteurs qui doivent être et qui sont excellents, de changer de rôle toutes les quelques minutes et d'incarner vraiment des personnages très différents.
Alors ça, c'est un grand, grand plaisir. Alors évidemment, ça, mon ancien professeur je crois que c'est lui qui me l'avait expliqué, à savoir c'est que la liberté d'un acteur, je crois que c'est d'un artiste en général, elle n'existe pas. Elle ne part pas de l'absence de contraintes, au contraire, elle part de la maîtrise des contraintes. C'est une fois qu'on a vraiment maîtrisé les différents éléments techniques que l'acteur... Et ce que Dominique fait formidablement, Dominique Séron, c'est justement nous mettre, avec un travail de grande rigueur, de mettre dans cet état de liberté d'invention du moment présent.
Voilà, alors Dominique Séron, alors je ne sais pas, vous pouvez faire, je crois, une compétition avec Frédéric Dussen. Elle en est à sa 50e mise en scène, voilà, à peu près ce genre-là aussi, dans les 100 aussi. Je crois qu'elle nous avait dit
sans doute, oui, mais
qu'elle
je
était quelque
pas,
chose comme ça. Voilà.
Je m'oserais pas un
alors, c'est deux piliers, pour ne pas dire deux dinosaures, mais deux piliers, vous êtes deux piliers de la...
pour ne pas dire, pour ne pas dire.
On n'a pas dit,
on
n'a pas dit.
On vous remercie de
Moi, je suis mal statué.
Non, mais c'est formidable. Alors, pour ajouter à la légèreté, il y a des chansons dans le spectacle.
Voilà. Alors, je viens de manger un bonbon, ce qui n'était pas très malin, mais... Oui, il y a des chansons qui sont des chansons qui sont des... les chansons qu'on a tous en tête, on ne sait même pas très bien d'où on les connaît. C'est des ritournelles, c'est de la variété, c'est Souchon, c'est
voilà, c'est actuel, c'est Gainsbourg. Hein, c'est pas
oui, c'est actuel. C'est des chansons qu'on en partage tous dans une espèce d'imaginaire qu'on a chansonnier, je ne sais pas comment dire, et que entre les contes, évidemment, qui ont un rapport avec ce qu'on a raconté ou ce qu'on va raconter. Donc oui, ce sont des très très agréables à faire d'ailleurs, comme des respirations aussi, parce que c'est une langue qui est quand même assez difficile et qu'on espère rendre fluide. Et de temps en temps, ces petites chansons entre les contes
Je me suis demandé si la langue était respectée, si l'écrit était respecté.
Alors ça, c'est un travail d'adaptation qu'a fait... Ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'on a commencé ce boulot au moment de Covid, où nous-mêmes, on a ressenti l'isolement que les personnages de Boucasse ressentent. On a eu notre peste à nous. Et... on a travaillé à partir d'adaptations que Dominique avait déjà fait il y a 15 ans pour un autre spectacle très très différent. Et à partir de ces textes-là, en Zoom, on se réunissait et on faisait des lectures. Et ces lectures nous ont amené à cette adaptation que Dominique donc a réactualisée. Il y a d'autres contes qui sont nouveaux aussi, enfin qui n'avaient pas été montés dans la maison scène précédente. Et disons que cette langue, l'idée était, c'est en vieil italien. Donc même un italien comprend difficilement le texte original de Boccace. Mais cette langue, on a essayé de la garder. C'est très alambiqué, c'est construit. On a essayé de garder cette contrainte, car elle nous dit quelque chose. Qu'elle dit quelque chose de l'âme humaine, de sa complexité et de toutes la difficulté que c'est de raconter, parce qu'il faut mettre un contexte, il faut parler différents sentiments, différents émotions. Donc on essaie de garder ça, mais de rendre cette langue fluide, cette langue tout à fait accessible.
Alors, où pouvons-nous venir vous voir ?
Alors nous allons jouer jeudi, vendredi et samedi de cette semaine au Théâtre Molière à Ixelles, à 20h, le jeudi et le vendredi, et nous allons jouer 6 contes. Et... samedi, nous allons jouer à partir de 18h. Nous allons jouer tous les contes, les 10 contes que l'on a travaillés, avec une pause au milieu, pendant laquelle on va faire un
manger
dîner,
des bonbons.
Des manger, oui. Je enfin avalé, ça m'a mis du temps. Et pendant lequel on va en faire un repas, un dîner italien. Donc là, samedi, c'est vraiment une grande fête. On a déjà fait ça. Au studio Thor il y a quelques mois, et c'est une belle aventure.
Est-ce que Myriam avait déjà eu vent du Décameron ? Est-ce
que tu as déjà eu l'occasion ? Oui, bien sûr. Moi, ma mère est italienne, donc Décameron, Boccaccia, bien sûr.
Oui, ça fait partie de ce qu'on apprend à l'école, parce que nous, on n'apprend pas ça à l'école.
Hein. À l'école, non, parce que moi, je n'ai pas du tout été éduquée en Italie. Je suis une fille d'exilée. Mais oui, ça fait partie de la culture. C'est comme Dante, on en parle, parle de Shakespeare ou Molière.
Alors Mario, qui a un nom italien, mais qui est finalement canadien.
Voilà.
Avait déjà entendu parler des Cameron ?
Non.
Non. Ben, ça vaut la
peine. J'espérais que tu n'allais pas poser de questions.
Moi, quand on s'appelle Mario et qu'on parle de culture italienne, excuse-moi. Alors, donc, on peut vite dire le nom des acteurs, parce que je les ai adorés.
OK. Alors...
C'est pas un piège.
Hein. Non, pas du tout, mais c'est juste que j'ai peur d'en oublier. Donc, il y a Laure Vogler, Alexia Dupiquer, Florence Guillaume, Elfée Dursen, Camille Léonard, c'est les filles. Les garçons, il y a Georges Chatidis, Stéphane Fenocchi, Vincent Huertas, Félix Van Orenberg.
Qui est formidable.
Et je ne suis pas sûr d'avoir bien dit son nom, d'ailleurs. Et moi.
Pour la petite histoire, donc on l'avait réussi ici pour le frère de la sœur de Jésus-Christ.
Ah oui,
qui est au poche. Ouais. Un des grands succès de la saison dernière, qui va certainement être repris, repris, etc. Alors, on va écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Ben alors, c'est un des chansons qu'on fredonne sur le plateau. C'est « La vie ne vaut rien » d'Alain Souchon.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. « Il a demandé leur avis à un des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. Joli petit sein de mon ami, et là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. Espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes.
Apparemment, on est de retour. Donc voilà, donc je lance le sujet. Ben voilà, donc on va parler d'opéra, Idoménéo de Mozart, dont les représentations vont commencer demain à l'Opéra Royal de Liège. On va vérifier déjà si Jean-Louis Grinda est avec nous.
Je suis là.
Ah, magnifique. Voilà, je me permets de faire une petite mise en contexte avant de vous poser quelques questions. Ça vous convient?
J'ai très peu de temps, excusez-moi, j'avais prévenu que j'avais très peu de temps, j'ai une conférence à 19h, donc là vraiment j'ai...
On va faire vite.
Ok.
Donc voilà, désolé, j'explique juste que c'est une œuvre qui représente un véritable tournant dans l'écriture du jeune Mozart. À ce moment-là, il a à peine 25 ans, mais il souhaite déjà s'affranchir du carcan de l'opéra sérien, qui est ce genre sérieux en vogue au XVIIIe siècle, inspiré de récits mythologiques ou historiques, et qui consistait à une longue succession de récits et d'airs. Donc des récits, vous savez, c'est quand on une sorte de parler chanté qu'on accompagne au clavecin ou au piano. Et donc c'était essentiellement destiné à mettre en valeur la virtuosité des chanteurs, particulièrement les castrats, sans réel souci de la cohérence dramatique. La chance va faire que ni le père de Mozart, le très sévère et envahissant Léopold, ni le librettiste de l'opéra qui s'appelait l'abbé Varesco, ne sont présents à Munich pendant les répétitions, et donc Mozart aura tout le champ libre pour effectuer toutes les modifications et expérimentations qu'il souhaite, et ainsi composer une œuvre audacieuse et finalement beaucoup plus fidèle à sa conception de l'opéra, avec notamment une meilleure caractérisation des personnages et de leur psychologie, un déroulé de l'action plus concis, plus efficace, et une fusion entre les récits, qu'on en parlait, et les airs, pour plus de fluidité musicale. Donc le résultat, c'est une inventivité, une richesse exceptionnelle, j'essaie d'aller vite, je speed, notamment par le soin apporté aux couleurs d'orchestration, la présence importante des chœurs, c'est un des opéras dans lequel les chœurs ont un rôle le plus important, et la puissance expressive de ces chœurs annonce déjà le fameux Requiem, alors qu'on était bien avant dans la composition, dans l'histoire de la composition de Mozart. Malheureusement, à l'époque, le succès fut mitigé lors de la création, certainement parce que ça bousculait un peu trop le goût du public de l'époque, mais ça ne nous empêche pas de redécouvrir avec plaisir cet opéra Idoménéo sur la scène de l'Opéra de Liège. Et donc voilà, donc Jean-Louis Grinda vous signé la mise en scène. Vous avez même été le directeur de l'Opéra de Liège de 96 à 2007, donc un retour pour vous. Et donc j'avais envie de vous poser la question, la musique de Mozart est déjà du théâtre en soi, elle est porteuse d'images, d'émotions dramatiques, elle fait véritablement corps avec l'action. Comment aborde-t-on la mise en scène d'œuvres aussi complètes, et comment avez-vous envisagé l'esthétique visuelle de cette production?
Bah déjà, bravo pour votre et merci pour votre présentation qui est extrêmement complète et précise. Il y a une petite correction que je souhaite faire, c'est que vous avez parlé des récitatifs qui sont accompagnés soit au clavecin, soit au piano, qui en espèce est un piano forte. Mais ce qui est encore plus extraordinaire dans cet Idoménée, c'est qu'il y a beaucoup de grands récitatifs accompagné par tout l'orchestre.
C'est ça, c'est ce que j'expliquais, oui, effectivement. Oui, qu'il y avait une fusion entre les airs, effectivement, par l'orchestre, oui.
C'est ça, oui, tout à fait. Mais c'est passionnant, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et rappelons également que Mozart, à ce moment-là, avait entre les mains, pour sa composition, le meilleur orchestre du monde, puisque l'orchestre qui était présent à Munich était le meilleur orchestre du monde. Donc voilà, tout ça, ça contextualise un peu encore mieux, je pense, le propos d'Idoménée, qui est un opéra merveilleux, magnifique. Alors, il est merveilleux au sens, à différents sens du terme, par sa beauté, mais également par son sujet, parce que c'est un opéra qui fait appel à la mythologie. On parle de la guerre de Troie, on parle de héros, on parle de dieux. Les dieux sont très présents, Neptune notamment est très présent dans Idoménée. Et pour la mise en scène, justement, je n'ai pas souhaité édulcorer ce propos-là, même si à l'arrivée, le propos de Mozart, qui est un homme, un enfant des Lumières, quand même du siècle des Lumières, et qui à l'époque, d'ailleurs, vous l'avez dit, était un peu en bisbille avec son père, que vous avez qualifié d'envahissant, vous aviez bien raison, eh bien, voilà, Mozart un peu, Idoménée, c'est le rôle d'un père qui veut tuer son fils.
C'est ça, pour rappeler juste l'histoire, en fait, donc c'est donc Idoménée qui est le roi de Crète et qui est pris dans une tempête à son retour de la guerre de Troie. Et donc il promet, on parlait du dieu Neptune, il promet au dieu Neptune de lui sacrifier le premier être vivant qu'il croisera en échange de sa propre survie. Et donc le problème, c'est que la première personne qu'il va croiser, c'est son propre fils, Idamante. Et donc là, évidemment, ça va commencer à se compliquer.
Ça se complique, mais finalement, on peut d'abord deux remarques qui entourent la mise en scène, qui permettent de l'expliquer. Premièrement, un roi qui est prêt à sacrifier un innocent pour sa survie, c'est quand même pas un comportement très noble ni glorieux, hein, on est bien d'accord. Et deuxièmement, je ne suis pas certain que le fait que ça soit son fils, le premier dont il ait croisé la route sur la plage, ça soit véritablement un hasard, parce que finalement ce roi, Idoménée, ne veut pas mourir. Or, quand vous êtes un roi, vous avez tous les jours votre fils en face de vous, vous avez automatiquement, si les choses sont normalement respectées, votre successeur. Donc il va tout faire au cours de l'opéra pour écarter son fils. Il ne veut pas le tuer, mais enfin, bon, il essaye de le faire embarquer pour des contrées lointaines avec Elektra, mais ça ne marche pas parce que Neptune s'y oppose. Et puis il l'envoie se battre contre le monstre. Et pas de chance, le monstre est terrassé par Idamante, et à la fin, quand il revient vainqueur, il dit « bon, c'est pas grave, je vais te tuer quand même, comme ça on sera débarrassé du problème ». Enfin, voilà, le monstre…
Ça aborde en fait pas mal de thèmes un peu universels, comme le sacrifice rituel de l'enfant, et ça met aussi, vous le disiez dans une interview, en évidence la violence du sacré aussi, puisqu'on sacrifie aux dieux, on pense au sacrifice d'Isaac, voilà, exactement, c'est même chose pour Iphigénie, enfin, il y a Jephthé, donc ce thème du sacrifice de l'enfant pour les dieux, quelque chose qui revient souvent. Et puis on parle aussi l'accueil ou le rejet de l'étranger, puisqu'on parlait d'Ilia, qui est une princesse troyenne qui est arrivée en Crète. Et puis il y a une autre princesse qui est Electre et qu'elle est grecque, et elle considère que c'est une asiatique. Et donc il y a alors qu'elle est accueillie par le fils du roi qui veut l'épouser, Electre, qui se considère une vraie grecque, refuse l'étrangère. Donc j'imagine aussi que ce thème du rejet ou de l'accueil de l'étranger, puis aussi puisque finalement Idoménée va abdiquer au profit de son fils, c'est la manière de calmer la colère de Neptune. Donc c'est aussi un peu le nouveau monde, l'avènement d'un nouveau monde sur les vestiges de l'ancien. J'imagine que tous ces thèmes, il y a vraiment de quoi faire pour raconter tout ça dans la mise en scène.
Oui, tous ces thèmes traversent l'opéra. Vous l'avez dit, c'est la fin d'un monde et le début d'un monde que je qualifierais de plus laïque. C'est-à-dire que le monde des dieux est représenté par Elektra et par Idoménée, et le nouveau monde, avec des dieux qui existent, il ne s'agit pas de dire que pour Mozart, ni pour le librettiste, ni dans l'œuvre, que les dieux n'existent pas, mais à partir de là, les dieux ont décidé de se tenir à distance et de transférer le libre arbitre aux êtres humains, à ce couple moderne qui est représenté par Idamante et Ilia. Et justement, Idoménée, oui, certes, il décide de transmettre la couronne à son fils.
C'est aussi intéressant de savoir que Mozart lui-même, qui entretenait, on en parlait avec vous tout à l'heure, cette relation de conflit avec son père, choisit un opéra dans lequel il va essayer de trouver une nouvelle voie, s'affranchir des règles de l'opéra. Il choisit un opéra dans lequel le roi, qui est son père, abdique au profit d'un fils. Donc c'est un petit peu aussi une sorte de symbolique de lui qui s'affranchit de son père, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
c'est hautement symbolique, et surtout, mais quand même, j'ai failli vous dire que, en fait, Idoménée n'allait abdiquer envers son fils, en faveur de son fils, que sous l'injonction d'un deus ex machina.
C'est ça.
Il ne le fait pas sous son propre chef. Donc il est juste du début à la fin, il est le jeu des dieux, il est un jouet entre les mains des dieux qui en font à peu près ce qu'ils veulent. Mais voilà, le libre arbitre va être laissé aux hommes et on va avoir une nouvelle ère qui va se développer pour nous. Et vous l'avez fort bien rappelé d'ailleurs, ben voilà, je pense que c'est un opéra psychanalytique avant l'heure.
Et la musique évidemment tient une place extraordinaire. On peut dire que voilà, c'est du grand luxe avec Fabio Biondi qui dirige ça avec toute sa connaissance du répertoire baroque, puisque c'est un chef italien qui vient de la musique ancienne et il a cette connaissance de l'interprétation historiquement informée. Et en même temps, il donne un souffle de modernité incroyable qui magnifie tous les reliefs de la partition. Puis vous avez aussi un très très beau plateau de chanteurs, hein, je crois qu'on n'a pas le temps de mentionner les noms. Donc je me dépêche un peu. Merci beaucoup, Jean-Louis Grindin.
Merci. Attendez, je vais vous en dire un avant.
Avec plaisir.
Il y a dans le rôle d'Idoménée un jeune artiste américain.
Excellent d'ailleurs, magnifique.
Qui est absolument une révélation.
Je suis d'accord avec vous.
Il a 30 ans, il est éblouissant vocalement, c'est un grand acteur. Il a toutes les qualités pour faire une immense carrière et c'est beaucoup, beaucoup de chance pour moi de l'avoir eu. Et je remercie l'Opéra Royal de Venise et son directeur Stefano Pace d'avoir eu le nez creux. D'avoir engagé ce jeune garçon.
Je suis tout à fait d'accord.
Au début d'une carrière brillante.
D'autant plus qu'il fait un remplacement. C'est un heureux remplacement, on va dire. En tout cas, merci pour votre présence. Donc, je rappelle que la première a lieu demain, mardi 19 à 20h. Bonne première à vous. Voilà, in bocca al lupo. Et donc les représentations les représentations continuent ensuite jusqu'au 28 septembre. Il y aura une transmission en direct sur Medici TV le 24 septembre et ensuite une rediffusion sur Mezzo. Évidemment, toutes les infos et de réservation sont disponibles sur le site www.opéraliège.be. Et en guise d'extrait pour illustrer tout ce qu'on a raconté, je vous propose d'écouter de Tutte nel cor Vicento, l'air d'Electre, hein, cette princesse plus grande que nature, toujours sur le fil de la folie. Et elle est chantée par Alexandrina Pedanchenska, accompagnée par le Freiburger Baroque Orchester sous la direction de René Jacobs.
Je ne vais pas chanter. Et comme Dominique vient de sortir, il n'a pas chanté non plus, mais un jour, il peut chanter. C'est un merveilleux chanteur. Un merveilleux chanteur, vraiment. Et on passe à Frédéric Dussen, alors, Là où le soleil se couche.
Oui.
Alors, une pièce atypique dans un lieu atypique.
Oui.
Écrit par un jeune homme atypique que j'apprécie beaucoup. Je lui ai dit, je l'avais vu dans... Donc, c'est Axel Cornil, que j'avais vu dans... Macadam Circus, qui se jouait à la Manufacture en même temps. Ça, tu as aussi joué à la Manufacture. Je ne sais pas si c'est la même année, mais...
C'est en 2019, je n'ai pas souvenir.
Non, c'est... l'année non, d'après. Non, après, je crois que c'est l'année d'après.
C'est cet été, je pense.
Ou cet été ? Ah, c'est possible. Oui. Et je suis bien contente de ne pas devoir résumer cette pièce, alors.
Oui, bon...
Peut-on parler d'une pièce ou de deux pièces ?
Allez, on va dire qu'il y a deux récits qui se croisent dans la pièce. Le premier a lieu dans un grand festival international, où un artiste conceptuel fait une performance sur la migration, mais aussi sur l'idée que peut-être la fiction ne raconte plus le réel. Et donc, il monte en 24 heures une grande œuvre du répertoire occidental, en l'occurrence, c'est l'Odyssée, ce jour-là, qui l'interrompt par l'arrivée d'un réfugié qui livre son témoignage personnel. L'arrivée du réfugié étant censée, évidemment, montrer les limites de la fiction par rapport à la capacité de dire la réalité, dans sa complexité, dans son poids, etc. Je ne vais pas spoiler tout le spectacle, mais il y aura des surprises.
Il y a un rebondissement.
Parce qu'en fait, ce qu'on croit être réel n'est pas forcément tout aussi réel qu'on pourrait l'imaginer, et que le mensonge est partout, au fond. Et donc, ce temps-là est un prétexte à parler de la soi-disant fin des grands récits, de la fin des récits, de la fin de la fiction, de la fin de toutes ces choses-là, avec une relative ironie, et surtout de la fin du théâtre fantasmé, du théâtre dramatique, qui n'est pas tout à fait prévu pour demain en ce qui concerne Axel Cornil. Voilà. Donc ça se conclut par un plaidoyer pour l'acteur, pour les transformations possibles de l'acteur, et surtout pour la place de l'imaginaire. Voilà. Et ce récit est croisé avec, alors là, une fiction, mais alors une vraie fiction familiale, donc une tragédie familiale dans un vignoble en France, dans le sud de la France, avec toutes les tensions politiques qu'on peut imaginer. Donc le père vient de mourir, il était violent... Et la mère se replie idéologiquement sur la peur de l'autre, sur la crainte de l'étranger, etc. Enfin, c'est vraiment une espèce de repli, on va dire, zémourien, presque. La famille se retrouve autour du retour du fils, qui est parti, soi-disant, faire fortune aux États-Unis, mais qui revient un peu la queue entre les jambes, avec une enfant qu'il a eue un peu par hasard, avec une prostituée chinoise. Et donc, déjà, le retour est problématique, parce que pendant son départ, la sœur s'est occupée de la maison et des parents qui vieillissent, et que, voilà. Et surtout, qu'arrive au milieu de tout ça, Mahmoud, qui franchit les grilles du domaine, voilà, qui manifestement est blessé, dont on va comprendre petit à petit qu'il a tenté de commettre un attentat, et qui va un peu, comme le personnage du théorème de Pasolini, révéler la famille à elle-même, personnage après personnage. Voilà.
Alors, on peut dire que c'est une ambiance, pour moi, j'ai vu une ambiance tchékovienne, je ne sais pas comment on dit.
Oui, on peut dire ça.
Parce qu'il y a de la lenteur, de l'ennui, enfin, c'est, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il fait chaud.
Oui, il fait chaud. Bon, évidemment, ça s'inscrit dans le contexte contemporain, quoi.
Oui.
La crise climatique est là, la terre ne rend plus rien, le vin est dégueulasse... La terre a été pourrie.
Un peu la cerisée, en fait. Un petit peu une ambiance cerisée, en fait.
Oui, on pourrait, en tout cas certainement, dans la mesure où la cerisée racontait la fin d'un monde et l'avènement d'un monde futur, c'est certainement ça qu'Axel a essayé de faire. Et il l'a fait, comme Tchekhov l'avait fait, à travers la famille.
C'est ça.
À travers les rapports familiaux, à travers, quelque chose d'à la fois terriblement concret et de profondément insondable.
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est qu'être un père ? Qu'est-ce que c'est qu'être un fils ? Qu'est-ce que c'est le couple ?
Voilà. Alors, dit comme ça, ça pourrait sembler ennuyeux, et ça ne l'est pas du tout.
J'espère que non.
Très, très bien écrit. Même si le spectacle dure combien de temps ?
2h10.
Et des cacahuètes ?
Et des cacahuètes, parce qu'il y a une introduction, ou alors c'est de la triche. Mais
Nous, on est assis pendant 2h30. Hein.
Oui, c'est ça.
Mais ça passe très, 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 très bien. dans un lieu particulier. C'est une salle de fête, c'est pas un théâtre.
C'est un tiers-lieu. Donc c'est un bâtiment qui est occupé par des familles et des associations. C'est un squat légal où il y a moitié famille sans papier, moitié famille avec papier, une espèce de vie commune qui s'organise comme ça, et des associations, plusieurs associations qui squattent les espaces.
C'est ça. Mais on est dans une salle toute blanche où on n'a pas tellement de lien avec... Enfin, il y a une petite exposition sur toutes les ASBL qui ont leur...
Ben, on travaille beaucoup avec eux, parce que c'est par exemple eux qui ont fait le catering de toutes les répétitions, c'est eux qui font le bar. Il y a trois rencontres thématiques qui sont organisées les samedis après-midi avec eux. Non, ils sont pleinement partie prenante, et pour eux, c'est très important que ce lieu vive culturellement.
Oui, je comprends. Voilà. Mais pour le spectateur, enfin voilà, ce qu'on a de particulier...
Dans le spectacle, on ne les voit pas, non.
Voilà, c'est qu'il y a une scénographie centrale, on va dire un long... C'est pas un banc, je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, une structure centrale. Et le public, il y a 80 personnes, c'est ça ?
60.
60, voilà. Il y a 30 et 30 qui sont assis d'un côté et de l'autre. La salle est éclairée en permanence. Oui. Donc c'est particulier, on fait partie du spectacle, vraiment.
Oui, c'est ça.
Il y a quelques centimètres entre nous et ce dispositif scénique.
L'idée c'était d'être immersif, parce que la pièce parle quelque part de l'entropie contemporaine, et on voulait le faire dans un espace qui soit au contraire de l'ordre de la promiscuité, de la proximité, de la chaleur,
exactement,
du rapport au public. Voilà. Parce que la pièce est une tragédie. Voilà. Mais une tragédie à la Shakespeare avec des éléments burlesques. Et le principe de la tragédie, c'est l'optimisme. C'est-à-dire qu'au-delà de la tragédie, normalement, il y a quelque chose d'autre qui se passe, quelque chose d'autre qui arrive, que ce soit historique, politique, voilà. Et donc, cet autre qui pourrait arriver, c'est une nouvelle manière d'envisager le commun, où l'autre a une place naturelle, où les choses se rencontrent sans entrer en conflit stérile, on va dire. Et donc cette choralité qui est la globalité du spectacle, parce qu'il y a des chants aussi, il y a un travail de choralité qui est fait par Christine Lebout, était un peu le contrepoint du déchirement que représente la pièce. Voilà.
Alors ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas manichéen, il n'y a pas les gentils et les méchants, parce que quand on lit les quelques phrases qui présentent le spectacle, bon, on parle de réfugiés, alors on se dit « Oh, les gentils réfugiés », c'est pas tout à fait ça.
C'est plus compliqué que ça.
Voilà, c'est ça. Ça reste des humains comme les autres, et chacun est humain et fait ce qu'il peut. Voilà.
Ils essaient de cette se situation, débrouiller comme ils peuvent avec la vie, dans la corde, voilà, comment fonctionne le monde comme il est aujourd'hui. Oui, ils ont...
Donc ça s'appelle « Là où le soleil se couche ».
C'est l'Occident,
hein. Ça se joue encore jusqu'au 7 octobre.
Oui.
Donc le lieu, enfin c'est rue du Trône 125.
125 rue du Trône à 20h30.
Voilà.
Et il y a des journées, mais il faut regarder sur le site, il y a des après-midi où il y a des rencontres thématiques, notamment avec les gens du squat.
Voilà. Exactement. Et donc si on veut réserver, ça se passe...
Il y a le site de l'acteur l'écrit, donc trois fois...
L'acteur l'écrit.
Acteur-écrit.be.
Voilà.
Voilà.
Et c'est là qu'on peut s'inscrire. Voilà, ça vous donne envie, ce genre de spectacle, Myriam, Laurent.
Oui, oui.
Enfin, Laurent est fan, de toute façon, de Frédéric. Alors, il y a... Oui.
Par obligation.
On s'est connus dans une autre vie.
C'est ça.
Alors, dans cette autre vie, j'étais très fan.
Ah, voilà. Alors, il y a quand même quelque chose à rajouter, c'est que donc, ça a été écrit pour du théâtre.
Ah oui.
Oui. Et donc, il y a des didascalies.
Oui.
Oui. Impossible.
Voilà, c'est ça.
Par exemple, une louve passe avec deux enfants.
Son dos, oui.
Voilà. Et donc, vous avez contourné le problème en faisant quoi ?
Mais je me suis dit, Benoît Van Dorslar peut jouer tout, et donc il joue tout.
Il joue les didascalies.
Il joue la louve et les deux enfants.
Tout ça, voilà. Tout ça.
Il fait tout.
Il fait tout. Il fait le fusil.
Parce qu'on n'a pas dit non plus que la pièce est hantée par... le fantôme du déclin de l'Empire romain. Voilà.
Voilà, ça mélange de plusieurs choses.
Il y avait une répétition du déclin de l'Empire romain et de la renaissance de la cité. Donc cette louve passe au milieu du plateau avec deux enfants sur son dos.
Bah, c'est normal.
Voilà.
Voilà. Et l'actrice qui joue la mère s'appelle ?
Martine Weikart.
Voilà. On dit qu'il n'y a pas tellement de rôles pour les femmes un peu plus âgées. Mais là, c'est un beau rôle. Hein.
C'est un petit peu plus qu'une actrice. C'est quand même un personnage très important de l'histoire du théâtre belge francophone. Voilà. Et c'est formidable qu'elle soit là, parce que c'est aussi une pièce qui parle du théâtre.
Oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'est très jouissif. C'est atypique et très intéressant, très intelligent comme pièce. Je vais dire ça comme ça. Alors, un peu de musique là-dessus.
Ben, vous allez entendre un miserere qu'on chante à la fin, mais là, il est chanté...
Encore par, de l'italien.
Oui. Et là, il est chanté par, dans un village. Voilà.
Misericordiam tua.
Ça ici, de passer d'un genre à l'autre. Donc le Bubble Planet.
Voilà.
Mais d'où est venue cette idée?
C'est d'où viennent toutes les idées. En réalité, moi je suis quelqu'un qui croit que les idées existent et on les trouve. On n'invente rien. Et ça fait longtemps qu'on travaille sur ce concept de si on veut immerser les gens dans qu'est-ce qui est plus, le plus important aujourd'hui dans qu'est-ce que nous on fait en tout cas, c'est que les gens veulent partager leur activité. Ils partagent ça comment? En Instagram, Facebook, toutes leurs sociales. Il y a ce besoin aujourd'hui de partager notre vie. Et alors, c'est né un peu de ça. Et les bulles, soit de savon, soit le globe, soit... Et on est entouré de ça partout. Et alors, c'est devenu, genre, lentement, le fil conducteur. Et on a créé 11 galeries différentes qui tournent autour, soit de l'océan, mais toujours autour des bulles. À un moment donné, tu te sens sous l'océan, à un autre moment, tu te sens enveloppé par des poissons, à un autre moment, tu es dans une énorme piscine de bulles qui a plus que 500 000 bulles dedans.
Boules qui représentent des bulles.
Voilà, boules. Et on a des gonflables à l'intérieur d'un gros bonhomme qui est dans la baignoire, et on termine ça avec une expérience de boule créée par des robots. Alors, tu rentres dans une salle et il y a deux robots, deux gros mains, qui synchronisent avec la musique et ils créent des boules de différentes tailles avec des différents objets. Il y a une réalité virtuelle où on voulait faire 80 jours autour du monde. On les dit, comment qu'on fait ça? Alors, tu es à l'intérieur d'une boule et tu voyages dans des récréations de 8 Wonders of the World, mais faites en friandise.
Alors, on recommence, on repart en arrière. La première chose, c'est donc c'est une sorte une exposition. Il y a une
expérience.
Une expérience. Il y a une dizaine, 11 salles, c'est ça ?
11 salles, oui.
11 salles. Donc, on passe d'une salle à l'autre et dans chaque salle, il se passe autre chose. Alors, on peut y aller avec des enfants ou sans enfants. Moi, je pensais que tout le monde y allait avec des enfants, mais apparemment, la moitié des gens viennent sans enfants.
50% du public vient sans enfants.
Voilà, c'est des grands enfants.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et donc, il y a toutes sortes d'expériences physiques. Et ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, pourquoi les bulles sont rondes, en fait ? Parce qu'il y a un côté scientifique. Si on veut, on peut s'attarder sur la partie plus scientifique.
Oui, on discute à travers l'expo, dans différentes zones, de c'est quoi la physique d'une boule ? C'est quoi le pourcentage de savon, d'eau, d'atmosphère, humide, pas humide, qui crée une boule et qui donne l'opportunité de la rendre grande. Parce qu'à un moment donné, on a une douche où on rentre
dans un
espace et on s'est créé une boule qui est 2,50 m de haut qui nous entoure. Et on n'est jamais mouillé. On n'est jamais mouillé.
Oui, à l'intérieur de la bulle,
voilà.
On est sec.
Il y a de l'air.
Mais le gouvernement nous a dit ça pendant 2 ans, qu'à l'intérieur de la bulle, on était protégés.
C'est ça.
Voilà.
Voilà, c'est en lien avec le Covid, avec tout, et la bulle. Et alors, je pense que ça développe très fort l'imaginaire des enfants. Alors, je suis désolée de retourner sur les enfants, parce que c'est évident pour les adultes, mais pour les enfants, c'est important aussi. Ils expérimentent physiquement toutes sortes de choses, toutes sortes d'éléments. Alors, les parents sont contents parce qu'il y a plusieurs endroits où on peut faire des belles photos.
Voilà, de nouveau.
Voilà, pour mettre sur Instagram. Et la partie réalité virtuelle, qui a déjà mis un casque de réalité virtuelle ? On a déjà mis ?
Oui, ça me donne le mal de mer.
Encore oui, jamais ?
Oui, moi je l'ai fait, j'ai haï cette expérience.
Ah oui ? Laurent ?
Non.
Encore jamais ?
C'est laquelle vous avez fait ?
Frédéric ?
Je l'ai fait à Beaux-Arts avec la SACD.
Ah voilà, c'est ça le problème.
Moi, j'avais fait pour l'exposition Monet, justement.
Oui.
Et ça m'a vraiment donné le mal de mer. Hein. J'ai dû arrêter, j'ai dû enlever le casque. J'étais à deux doigts, cœur sur carreau.
Il y a une partie du public qui réagit comme ça. Oui. Ouais.
Alors moi, je suis venue avec ma petite fille de 4 ans. Elle a trouvé ça tout à fait normal. Hein. Elle a rien de particulier.
Super intéressant, le casque.
Oui.
C'est que la réaction des enfants de 4 ans est la même que les gens de 80 ans.
Ah oui.
Alors, quand on est très petit, on ne bouge pas.
Oui.
On est comme ça à l'intérieur. Quand on a vieilli, on a la même réaction. Et entre les deux, tu as de plus en plus de mouvements et ça redescend de l'autre côté à moins et moins de mouvements. C'est vraiment intéressant comment les deux pôles sont les mêmes.
En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant, la réalité virtuelle. Moi, j'aime ça. Je dois vous dire qu'on l'utilise aussi à l'hôpital pour distraire les enfants, pour plein de choses, pour les faire respirer aussi. Et que j'ai eu l'occasion, il y a quelques années à Avignon, de voir un premier film en réalité virtuelle, scénographié. Donc, on était soi-disant un malade. On était un prisonnier. Et on nous avait proposé de nous libérer. Et en échange de ça, il fallait qu'on donne nos yeux à quelqu'un. C'est très impressionnant parce qu'on est dans ce lit d'hôpital. Il y a la femme qui vient nous dire écoute, si tu veux pas, tu peux changer. Il y a la dame à qui on va donner nos yeux qui vient. Et puis si vous tournez, vous voyez l'infirmière qui prépare les choses. De l'autre côté, vous voyez des gardes. Enfin, on est dedans, on est le prisonnier. Moi, je crois que c'est un des avenirs du cinéma en 360 degrés. Et que donc, si vous voulez expérimenter, il faut venir donc, dans les expos de Mario. Parce que donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme expo ? Est-ce qu'il y en a d'autres à Bruxelles ?
Oui, pour le moment, on a l'expo sur Van Gogh à la Galerie Horta.
Donc, toujours immersive, hein ? Ça veut dire toujours... vous avez déjà fait des expos immersives ?
Oui.
Lesquelles ?
Je vais voir. Sur la peinture. C'est un peintre.
Ah oui, c'est beaucoup de peintres pour le moment. Hein.
Je ne sais même plus lequel.
Ah bah voilà. Bon, il y a eu Van Gogh, Monet, Klimt.
On trouve qu'en dehors des peintres, l'immersive est plus limitée.
C'est ça.
Comme spectacle.
Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'une fois que ces expos sont... Elles sont toujours créées en Belgique ?
toujours créé en Belgique.
Voilà, quel honneur. Elles partent dans le monde entier. Et notamment, ouais. Il y en a en Israël. Donc, pour le moment, deux, c'est ça?
Oui, pour le moment, on a deux expos à Israël. On a Klimt à Houlon. Et on a...
Attention, il faut dire Houlon. C'est la ville où j'ai habité. Donc, il faut respecter.
Je respecte. Voilà. Et on a Dali à Tel Aviv.
Alors, on donne les informations plus concrètes pour le Bubble World. Ça se passe...
Bubble Planet. Ça se passe tous les taxis. De mercredi à lundi, on est fermé les mardis, et c'est pour tout le monde. En réalité, le succès, nous, on trouve que de ce genre d'expo, c'est que c'est un des rares endroits où les parents et les enfants,
ça passe bien.
Voilà, les deux peuvent interagir.
Alors les dates, il n'y a pas de date limite, on ne sait pas.
Non, pour le moment, on va être jusqu'au 6 juin.
Attends, mais ça va nous et puis il y a des heures assez élastiques, hein, entre le matin, le midi, le soir.
Voilà, on ouvre à 10h le matin, puis il y aura 60 soirs dans les journées.
Je vous invite à le faire en tant que grands enfants. Vous avez le casque virtuel. Je crois qu'il y a un mini supplément pour le casque virtuel.
Oui, il y a un supplément de 2 euros.
Et on va écouter un peu de musique.
Créé par Thomas Soren.
Quelque part, non? Non. C'est une exclusivité Radio Judaïka. Voilà. Merci Mario. Et enfin, Myriam Sadoui, bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'est déjà eu deux fois en ligne, deux fois pour la même pièce, pour dire comme j'avais apprécié la pièce, hein, donc Final Cut, qui a obtenu pas mal de prix, qui tourne encore ou qui...
Oui, qui tourne encore.
Qui tourne encore, voilà, ça fait partie des quelques pièces qui tournent. C'est...
Qui a déjà tourné 180 fois.
Magnifique.
Voilà, voilà le chiffre actuel.
Mais... C'est vraiment, c'est pas mal hein, pour la Belgique. Évidemment, pour la France, c'est un flop, mais pour la Belgique,
non,
c'est...
Non, pour la France, pas du tout, parce que les spectacles tournent de moins en moins, surtout depuis le Covid.
Enfin, voilà, bravo. Et là, vous venez pour un nouveau spectacle, donc c'est Scène de la vie conjugale, comme le film.
Tout à fait, c'est donc adapté du scénario de Bergman.
D'accord. Qui vous a donné l'autorisation de... Comment ça
oui.
s'est passé?
Bon, y a une fondation et... Et voilà, ils donnent très facilement les droits. Moi, je les avais eus il y a 15 ans pour Affaire d'âme, qui était un scénario inédit. Mais Bergman était vivant et là, c'était beaucoup plus difficile. Et c'est donc lui qui m'avait donné les droits à l'époque. Mais là, maintenant, voilà.
Alors, de quoi parle cette pièce?
Alors, Scène de la vie conjugale, mais tout le monde connaît Scène de la vie conjugale. C'est l'histoire d'un couple, la cartographie d'un couple qui apparaît comme idéal. Et puis, y a un coup de tonnerre. L'homme annonce à la femme qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, que ça dure depuis des mois et qu'il s'en va. Et puis, il y a donc la reconstruction de cette femme, disons même son émancipation. Et puis, il y a une scène où ils se retrouvent et où ils règlent...
Leur compte.
Ils règlent les comptes. Tout ce qui ne s'est pas dit au cours de tout ce temps tente de se dire là, sous toutes les formes. Voilà le texte dont Bergman a fait une série qui passait sur la radio suédoise. Et la légende raconte que les rues de Stockholm étaient vides à l'heure de la série et que le taux de divorce a doublé après le sixième épisode.
C'est-à-dire voilà. Que les femmes se sont émancipées, elles n'ont pas attendu que le mari dise « j'ai trouvé quelqu'un
d'autre ». Non, c'est... Voilà, la série date de 1974. Il faut rappeler quand même que, en tout cas en France, en 1963, ça a été la première fois que les femmes pouvaient ouvrir un compte en banque personnelle sans l'autorisation du mari. Et donc, le travail que nous avons fait, ce sont des variations autour de scènes de la vie conjugale, puisque donc en 2021, un cinéaste israélien, Hagai Levy, je ne sais pas si je prononce bien Hagai.
Très bien.
Merci. Et donc, a refait la même série, scène de la vie conjugale, mais cette fois en inversant le genre. C'est-à-dire, c'est la femme qui lance le coup de tonnerre qui dit, et qui s'en va. C'est la lente reconstruction. Donc, Hagai Levy suit vraiment pas le même texte. Il l'a adapté. Et il suit le fil du scénario de Bergman. Et donc, tout est parti d'une discussion avec mes étudiantes et mes étudiants au Conservatoire de Liège, où je suis professeur et où nous parlions à la cafétéria de séries. Et donc, on parle de la série d'Hagai Levy avec Jessica Chastain et tout. J'ai dit, ah oui, ça c'est formidable, en plus le renversement avec Bergman.
Comment elle s'appelle, la série?
Elle s'appelle Scene of Marriage.
Ah oui, d'accord.
Et Scène de la vie conjugale. Et donc, elle est sur HBO. Et donc, et je dis, ah oui, c'est formidable avec le renversement bergmanien. Et alors, ils disent, comment ça, le renversement? Non, on ne connaît pas cette série. Et donc, ça m'a beaucoup travaillé. Et donc, parce que justement, la chose était vue sans le basculement. Et donc, du coup, j'ai fait un exercice sur des fragments au conservatoire, quelques mois plus tard, où je prenais la même scène, alors pour le coup, avec les mêmes mots. Et c'était fascinant comme les perceptions changeaient, nos perceptions. Et surtout, je travaillais avec une jeune génération, entre 18 et 30 ans. Et donc, j'imaginais que le texte allait peut-être montrer sa capacité d'être dépassé. Et en fait, par exemple, à chaque fois que les filles annonçaient la rupture, elles avaient toujours des gestes très compassionnels. Il faut que je te dise que je suis tombée amoureuse, tu comprends ? Alors que les hommes ne s'occupaient pas trop de ça. Alors on inversait. Et puis quand la femme dit, voilà, je vais, mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est me barrer d'ici. tu sais depuis combien de temps, tu sais de quoi j'en ai le plus marre. Et en fait, ça ne nous fait pas le même effet quand on entend que la femme va partir et planter là ses enfants, payer une pension alimentaire, alors qu'il n'y a rien à faire. On ne se dit pas que c'est bien qu'un père ne s'occupe pas de ses enfants, mais on a quand même une pente à trouver ça plus normal, en tout cas, on en a plus l'habitude. Et donc, c'est ces perceptions, en fait, c'est presque un spectacle interactif, on va dire, puisqu'en fait, le spectateur, voilà, et la spectatrice, voit la même scène, en tout cas, le cœur du processus, c'est presque un laboratoire, le cœur du processus, c'est la rupture. Et donc, on entend les mêmes mots, la même situation repart, et...
Inversé,
et donc, on n'entend pas les mêmes choses.
Ah oui.
On n'entend pas les mêmes choses.
C'est intéressant, n'est-ce pas?
Voilà, et donc, voilà ces variations autour de scènes de la vie conjugale qui sont interprétées par cinq jeunes gens. Donc, c'est vraiment comment la jeune génération, finalement, travaille sur un texte, un très grand texte classique.
Parce que j'allais dire sur les ruptures, eux, c'est un SMS. Hein. Je me casse.
Non. Oui, oh, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux n'est pas toujours ce qui se passe dans la vraie vie.
Alors, on peut vite rappeler jusque quand. Donc, d'abord, c'est à l'Océan Or, Théâtre Océan Or qui se trouve.
Le Théâtre Océan Or, à Scarbeck, où ma compagnie est en résidence depuis de nombreuses années et qui est un théâtre formidable, j'en profite pour le dire ici.
Et vous jouez jusque?
On joue jusque samedi et voilà. Malheureusement, à part demain, tout est complet.
Voilà. Alors, enfin, venez tous demain ou alors
on joue
sur
aussi à Tournai, le 6, à la D'accord. Maison de la Culture de Tournai, qui est notre coproducteur. Et ça se jouera le 7 et 8 février à la Maison de la Culture de Tournai, on espère, l'année prochaine. Voilà.
En tout cas, vous nous avez donné envie, hein. Ça donne envie, hein, d'aller voir comment... Il faut aller avec... SMS. Et voilà, et en parler, tiens, comment... Tu... Enfin, voilà, non, ça donne très envie, merci beaucoup.
Super.
Merci à tous. Bonne semaine à tous, bon travail.
Ah, non, on n'écoute pas de la musique.
Si, on va finir en musique, mais je dois d'abord dire au revoir. Et puis, on écoute votre musique que vous avez choisie, qui est ?
Qui est une musique qu'il y a dans le spectacle. Et donc, c'est Jean-Luc Plouvier qui a fait la bande sonore. Et donc, je lui avais demandé, en fait, est-ce que c'est possible d'avoir deux chansons qui puissent s'entendre l'une à côté de l'autre et être donc pas du tout reliées, mais de temps en temps s'harmoniser. Et donc voilà ce qu'il a fait avec Everybody Earth et Cassandra Wilson.
Merci beaucoup. Au revoir, à la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, c'est Kipou. Il n'y a pas d'émission. Au revoir.